Eh bien, en un quart d'heure, il n'est pas question de tout dire sur César, évidemment. Et je crois qu'il faut choisir une façon d'aborder l'homme et l'œuvre. Du personnage, les apologistes retiennent en général deux traits. D'abord, l'efficacité et la rapidité, qui est un trait, on peut dire, très moderne. Le secrétariat de César est organisé d'une façon admirable, ses réseaux politiques le sont également. On peut presque dire qu'il a rationalisé son action. Michel Rambaud, vous-même notez dans votre livre que ses méthodes de gouvernement devinrent de plus en plus intellectuelles, de plus en plus abstraites. Et puis le deuxième trait, je crois qu'il faut souligner, c'est l'intelligence dans le cynisme. Les gouvernants sont volontiers cyniques, mais le cynisme de César est un cynisme très éclairé. Il n'est jamais bas, il n'est jamais mesquin. Ce sont des qualités qui sont bien connues, et aujourd'hui, je préférerais que nous voyions ensemble quelles ont été les faiblesses de César. Non pas, évidemment, les petites faiblesses personnelles, il en avait beaucoup, c'est bien connu, mais les faiblesses de la politique et de l'homme politique, ou si l'on veut, ses erreurs. Et la première de ses faiblesses, c'est qu'il est arrivé aux charges assez tardivement si l'on compare sa carrière avec certains de ses collègues. Pourquoi ce retard?
Il me semble que deux raisons ont joué. L'une tenait à la situation de famille de César. Il était de la famille la plus noble de Rome, puisque les Iulii prétendaient descendre d'aînés et remonter ainsi jusqu'à Vénus. Mais son père, son grand-père, tout en restant dans la noblesse sénatoriale, n'avait pas eu de très haute charge. Je crois qu'il n'avait pas dépassé la préture. Il n'y avait pas eu de consul chez les Césars depuis une ou deux générations. Il était donc moins lancé, si vous voulez, dans la politique. Il avait d'ailleurs perdu son père de bonne heure. Il n'avait pas de fortune. Au contraire, un Pompée, qui est de peu son aîné, qui n'avait pas de titre, mais qui jouissait de l'énorme fortune de son père, avait pu se lancer dans la guerre civile aux côtés de Sylla et faire une carrière absolument fulgurante. D'autre part, il y a le caractère de César, qui, je pense, est de ces caractères avides, ambitieux, mais qui cherchent d'abord à atteindre leur but par la conciliation, par la persuasion, et qui ne deviennent cruels, qui n'explosent, si vous permettez une expression familière, que lorsqu'ils rencontrent un obstacle grave. Aussi, le voyons-nous suivre une carrière normale jusqu'au consulat. Mais à partir du consulat, il fait tout pour accumuler les moyens du pouvoir. Conquête, argent, etc.
Alors, je pense que nous ne pouvons pas revenir sur toutes les complications et sur toutes les rivalités qui ont marqué cette conquête du pouvoir. Disons en gros qu'à Rome, il y a une oligarchie, une aristocratie qui est une aristocratie sénatoriale, dont le rôle était autrefois fondamental et qui perd son pouvoir, disons plutôt qui perd sa cohésion.
Oui.
Ça, c'est le fait quand même fondamental. Le Sénat est déchiré, les intérêts des uns, les intérêts des autres, et devant un empire qui devient de plus en plus immense et qui pose de plus en plus de problèmes, ce Sénat n'est plus guère capable de gouverner. Et alors, à l'arrière-plan, on a des individualités puissantes, on a Crassus,
oui.
L'argent, comme on l'a vu la dernière fois. On a Pompée et on a César. Survient la guerre civile, Pompée est vaincu, et je voudrais quand même que nous en disions deux mots. Pourquoi Pompée a-t-il eu le dessous?
Ah, je pense qu'il a eu le dessous pour des raisons militaires. Je pense que vraiment là, c'est, il faut le dire, le génie militaire de César, et peut-être la chance, n'est-ce pas, qui ont amené le renversement de Pompée. Je rappelle en peu de mots, Pompée a essayé de mettre en défense le sud de l'Italie quand César, en 49, au début de la guerre civile, y a pénétré. La mobilisation est trop lente, il ne peut pas. Il procède à une retraite stratégique, passe de l'autre côté de l'Adriatique et, pendant une année, organise une puissante armée en Épire et au nord de la Grèce. Lorsque César débarque à son tour dans la région de Durazzo, Pompée a failli être vainqueur. Pompée, que César avait voulu assiéger, a brisé les lignes de siège et contraint César à la retraite. Et à la fin, ils sont allés en découdre dans cette fameuse plaine de Pharsale, où la localisation de la bataille pose d'ailleurs toutes sortes de problèmes. Et il s'en est fallu de peu que César ne fût vaincu. Là, ça a vraiment été l'effort militaire, l'entraînement de ses légionnaires, peut-être une erreur de Pompée que César explique. Pompée, dit-il, comptait sur la stabilité de ses soldats. Or, il y a des cas où il faut plutôt lancer les hommes en avant pour profiter de leur furie guerrière, n'est-ce pas ? Et alors là, puisque vous me posez la question, je répondrai que la défaite de Pompée tient peut-être à son tempérament un peu trop défensif et au fait que César a su déchaîner à temps l'esprit offensif de ses hommes.
Donc après Pharsale, César se retrouve maître de Rome. Est-ce qu'il l'est véritablement ? Quelles sont les oppositions ? Quels sont les problèmes ? Et comment se pose le problème du pouvoir ? C'est-à-dire, comment va-t-il gouverner ? Comment peut-il gouverner ?
Il y a d'abord un fait assez extraordinaire, c'est que César n'est pas tout le temps à Rome dans cette période. Il continue à poursuivre les Pompéiens, il va jusqu'à Alexandrie, où il rencontrera Cléopâtre, ensuite il va en Asie, ce que nous appellerions le Proche-Orient maintenant, il reviendra enfin à Rome, d'où il repartira pour l'Afrique, combattre d'autres Pompéiens, il reviendra à Rome, d'où il repartira pour l'Espagne. Je dirais que César fait des apparitions plus ou moins longues à Rome. Mais il met en place un système, il a des hommes de confiance. L'un de ces hommes de confiance est le fameux Marc-Antoine, qui apparaîtra dans la suite des guerres civiles et qui joue le rôle d'une sorte de gouverneur militaire de l'Italie avec toute une troupe de personnages. Je crois bien que c'est d'eux que Ronald Syme dit que dans le parti césarien, il y avait des gens vraiment affreux, des gens vraiment horribles, n'est-ce pas ? Il y avait des guerriers professionnels, des centurions qui avaient pris leur grade en faisant la guerre des Gaules et qui étaient assez terrifiants. Et je crois qu'un des aspects, mais je commence par un vilain aspect, un des aspects de cette prise du pouvoir en Italie, ça a été la mise en place d'un certain nombre de gens. Et cela s'est même traduit par des confiscations de propriétés. Par exemple, on a pris les biens de Pompée, on les a vendus aux enchères, et comme par hasard, ceux qui les ont achetés étaient des Césariens. À partir de là, voyez-vous, un certain nombre d'intérêts privés étaient en collusion avec César. Mais ce ne sont pas, évidemment, des organismes politiques. Le grand organisme politique restait le Sénat, et César avait quand même besoin d'un Sénat pour reconnaître sa dictature, pour lui voter quelques lois où Senatus consulte de temps en temps, et il a souvent essayé de réunir les sénateurs qui restaient. Ceux qui n'étaient pas morts à Pharsale, ceux qui n'étaient pas en fuite. Et il rencontrait beaucoup de réticences. Alors, parallèlement, il fit un effort pour créer de nouveaux sénateurs, faire accéder aux magistratures ses partisans, mais en raison même du mécanisme du recrutement du Sénat, je rappelle que le Sénat était constitué par les magistrats et les anciens magistrats, cette mise en place des Césariens au Sénat, même si l'on faisait venir des Gaulois, même si l'on nommait d'anciens centurions, ne pouvait être que très lente et se faire annuellement. Si bien que ce qu'on pourrait appeler la base parlementaire de César n'était pas très forte au Sénat.
Donc il y avait une possibilité que la dictature tourne mal. Et d'autre part, est-ce que le peuple constituait dans ce système un appui possible et comment ?
Le peuple pouvait constituer un appui parce qu'il y avait en somme, disons pour simplifier à Rome, deux sources de la loi. une loi pouvait être votée par le Sénat, c'était un senatus consulte, une loi pouvait être votée par le peuple sous différentes formes. L'une des plus courantes était le plébiscite. C'est le premier sens de plébiscite. C'est une loi votée par le peuple, à l'appel d'un tribun de la plèbe. César pouvait donc ainsi, avec l'aide d'un tribun de la plèbe, faire voter des lois, et il ne s'en est pas privé, non plus que les hommes politiques de ce temps. Mais il est évident que ceux qui votaient étaient surtout les habitants de Rome. Quelquefois, des Italiens se dérangeaient, mais pas toujours. Et le peuple, à ce moment-là, se réduisait presque à la population libre de Rome. C'est-à-dire qu'il était assez facile de l'acheter, de le manœuvrer, de l'encadrer par des agents électoraux. Et on pourrait résumer le césarisme en disant que les deux éléments du pouvoir étaient, d'une part, la dictature que César finit par rendre perpétuelle, il obtint le titre de dictateur perpétuel, et d'autre part, le peuple, le Sénat restant presque inutile entre les deux.
Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur dans cette...
Je pense que si nous regardons les faits, si nous nous rappelons que César a été assassiné dans une réunion du Sénat, où pas un sénateur ne l'a défendu, où plusieurs sénateurs qui l'ont frappé de leur poignard étaient de ses amis ou de ses anciens amis, l'échec est évident.
Je crois que Marc-Antoine tenait la police, plus ou moins.
Oui.
Quelle a été son attitude au moment de l'assassinat de César ?
Oh, c'était une attitude de prudence. Il s'est caché un jour ou deux, mais il n'a pas dû rester inactif, car il a rappelé des vétérans, il a rappelé des amis. Il était d'ailleurs, je le rappelle, cette année-là, consul. Et voyant que les républicains ne faisaient pas grand-chose, dans les 48 heures, il avait pratiquement repris le pouvoir dans Rome. Et alors, il y eut une négociation entre le Sénat, qui se réunit à nouveau, et Marc-Antoine. À cet égard, on pourrait dire que le système césarien avait quand même tenu, puisque le principal lieutenant de César a pu rester au pouvoir après le fameux assassinat des Ides de Mars.
Et cet échec, puisque, effectivement, la dictature de César se termine par un assassinat, il est peut-être dû aux causes assez profondes que vous venez d'analyser, mais il y a une chose qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est la question de la royauté. Tout le monde sait que les Romains haïssaient la royauté depuis très longtemps, et on trouve des preuves absolument irréfutables qui nous amènent à penser que César a peut-être voulu la royauté, et qu'en tout cas, la question de savoir s'il pouvait devenir roi a été officiellement posée dans Rome. Est-ce que ce facteur a joué un certain rôle dans l'assassinat de César ?
Il est très possible que ce facteur ait joué un rôle, mais je pense un rôle psychologique et moral, car il n'était, disons, pas plus difficile d'assassiner César dictateur ou d'assassiner César roi. Mais évidemment, des hommes comme Brutus, qui représentaient une tradition républicaine farouche, ne pouvaient pas, moralement, vis-à-vis de certains autres Romains, laisser Jules César accéder à la royauté. Empêcher César d'être roi pouvait être un motif personnel, individuel, déterminant pour certains des conjurés.
Il y a une dernière question que j'aimerais que nous abordions. C'est la question de la clémence de César. On présente en général César comme un génie, un homme très sûr de lui, de ses moyens, et qui, vis-à-vis de ses adversaires politiques, se comporte avec une sorte de sérénité méprisante, leur pardonnant, les laissant vivre en quelque sorte. Est-ce que cette attitude est bien réelle ? Est-ce que ce n'est pas un mythe dans une certaine mesure ?
Je ne pense pas que ce soit un mythe, mais il est évident qu'en conscience, un Romain se sentait tenu de traiter un autre Romain avec beaucoup plus d'humanité qu'un étranger. Il y avait un sentiment, n'est-ce pas, d'égalité des droits, d'égalité de qualité humaine. Mais alors, dans la guerre civile, Eh bien, dans la guerre civile, je crois que César éprouva le besoin de rallier des gens à son parti, ne serait-ce, dirais-je, que pour avoir des sénateurs. Parce qu'enfin, s'il avait tué tous ses adversaires, il n'aurait pratiquement plus pu réunir de Sénat et il perdait une des sources du pouvoir. Il n'avait plus qu'un pouvoir de fait. J'ai l'air, il est vrai, de lui prêter un mobile bien bas. Je pense que cela a joué. Je crois qu'il y a aussi chez lui une humanité véritable. Il y en a quelques traits, n'est-ce pas, dans les textes. À un ami malade, il prête son lit quand il s'agit d'une étape, dans un voyage difficile. Il y a chez lui certainement un sens du contact humain qui est tout à fait remarquable et qui explique, je crois, son ascendant sur ses amis et ses partisans. Je ne vois pas pourquoi cette facilité de contact humain n'aurait pas joué même avec ses adversaires, n'est-ce pas? La preuve, c'est que parmi ses assassins, il y a eu plusieurs de ses adversaires à qui il avait pardonné. Et là, peut-être, une des faiblesses de César a été justement cette qualité que je crois beaucoup de dictateurs modernes n'auraient pas.